Chapitre 15. Les francs-maçons chinois. Heureux qui jeune encore pâlit, chancelle et tombe, dans l'éternel repos, dans le paix de la tombe. Rimeur imbécile, philosophe pompier, joli le repos, adorable la paix. Oh, lequel des deux m'a donné ce commencement de lombago? Lavarette parlait ainsi tout en s'étirant, en cambrant ses reins douloureusement impressionnés par une station trop prolongée dans la caisse du Manchu Kinchang. De la journée entière, il n'avait osé sortir de sa cachette, il craignait une surprise. Il avait entendu les allées et venues des matelots remplaçant les factionnaires placés à la porte de son domicile, et se doutant bien de la cause de ce remue-ménage, il s'était tenu impassible. Mais encore que la boîte rectangulaire fût capitonnée, son peu de largeur en faisait un lit incommode. Aussi, lassé, moulu, le journaliste l'avait quitté vers le soir. Il était certain que l'on ne ferait plus de ronde à ce moment, et le voyageur de contrebande se promettait de passer la nuit assis afin de se remettre de sa longue station horizontale. Prenant dans sa bière, transformée à la fois en chambre à coucher et en salle à manger, une boîte de bœuf conservée enlevée la veille à la cuisine, il commençait à souper de grand appétit quand des pas se firent entendre dans le couloir. « Bon, pensa-t-il, les passagers regagnent leur cabine encore. Ah, ça, est-ce que je leur aurais fait peur ?» Il se tut brusquement, les pas s'étaient arrêtés à la porte, et presque aussitôt une clé grinça dans la serrure. Le jeune homme n'eut que le temps de se jeter derrière un cercueil. Un flot de lumière pénétra dans son compartiment. « Ah, oh, une ronde! Ça y est! Oh, je suis pris !» L'imprudence s'était éloignée de sa cachette et il lui était impossible maintenant de la regagner sans être vu. 25 secondes s'écoulèrent, scandées par les battements de son cœur, et soudain s'éleva une voix douce. « Je vous remercie, capitaine, disait-elle, ces bougies pour m'éclairer, ce livre pour me distraire suffisent. Je ne crois pas aux apparitions fantastiques. « Je suis certaine qu'il ne se produira rien de naturel, et je veux gagner tout à fait mon pari. » Pourtant, un matelot de garde dans le couloir, mademoiselle. « mais non, je ne cours aucun danger. Veuillez seulement me remettre la clé, merci. Et maintenant, bonsoir. » On chuchota un instant, puis la porte se referma. Avançant un peu la tête, Lavarède aperçut Miss Aurette debout, une bougie à la main, le corps légèrement penché en avant, écoutant s'éloigner ce qui l'avait accompagné. Rassurée enfin par le silence, elle s'approcha des cercueils avec une répugnance visible et consulta les plaques de cuivre portant les numéros d'ordre appliqués sur les couvercles. « 49 » murmura-t-elle entre haut et bas. « Mais où est le 49 ?» Très surpris de la voir seule en pareil lieu, le locataire de ce numéro répondit aussitôt sur le même diapason. « N'ayez pas peur, mademoiselle, le 49 est en promenade. » Elle tressaillit au son de sa voix, mais se remettant aussitôt. Oh, « C'est vous, monsieur Lavarède ? Moi-même ? » Sortant de sa cachette, il ajouta avec le plus grand sérieux. « À quel heureux hasard dois-je le plaisir de votre visite ?» Les circonstances donnaient à la question un caractère burlesque. La jeune fille sourit et la glace fut rompue. Au premier moment, l'Anglaise avait éprouvé quelque embarras, mais il était bien dissipé maintenant, et ce fut comme un bon camarade qu'elle conta gaiement l'histoire du revenant. Elle devint plus sérieuse pour dire ses inquiétudes, la façon dont elle avait procédé pour pénétrer dans le compartiment des Chinois afin d'apporter des provisions aux prisonniers, et en personne pratique, elle termina en tirant d'un sac caché sous sa robe du chocolat, des biscuits, du port-au-wine et même un superbe rosbif froid, précieusement enveloppé de papier de soie. « Comme cela, déclara-t-elle, je serai tranquille. On ne surveillera plus ce lieu sinistre et je pourrai renouveler vos vivres. » Armand l'écoutait avec une satisfaction très douce. Sur ces derniers mots, il lui prit la main et la porta à ses lèvres, comme elle paraissait embarrassée. « Oh, ne craignez rien, mademoiselle, fit-il, c'est ainsi que nos ancêtres marquaient leur respect aux princesses. En ce moment, voyez-vous, je suis touché de l'intérêt que vous me témoignez et de la courtoisie parfaite de Sir Merliton, qu'elle vous a sûrement autorisé. » Elle eut un mouvement de tête plein de mutinerie. « Mon père a permis, sans positivement permettre, mais il m'avait donné carte blanche, alors j'en ai usé. » « Ah, il n'ignore pas votre présence ici, cependant. »« Oh non !»« Mais il ignorait que j'avais l'intention d'y venir lorsqu'il m'a donné la licence de vous secourir. »« Je dois même ajouter, reprit-elle après un temps, que j'ai été fort grondé à cette occasion. »« Grondé, vous ?» Aurette prit une mine contrite. « Oui, monsieur Lavarède. Après l'incident du pont, mon père m'a pris à part et me parla ainsi. « Je suppose, Red, que vous ne donnez pas suite à votre projet. »« Pourquoi cela ? » répondis-je. « Mais vous ne songez pas que ce tête-à-tête nocturne avec mon très loyal adversaire ne serait pas convenable ?»« Je l'avoue, la réflexion m'embarrassa, je n'avais pas songé à cela. »« Oh, ni moi non plus !» affirma le journaliste. Elle frappa ses mains l'une contre l'autre. « Vous non plus, alors j'ai bien fait d'insister. » Enfin, mon père se laisse fléchir, car il vous a en haute estime, mais il vous demande la promesse formelle de garder le silence sur notre shocking interview. Oh, mademoiselle, il ne m'a pas cru capable de chercher à vous nuire. Me nuire, répéta-t-elle, il avait donc raison. Cela serait-il compromettant ? « Non, non, ma chère et bonne petite sœur, il n'y a rien que de très amical et de très gentil dans tout ceci. Les seuls sentiments que j'éprouve sont la reconnaissance et le respect. Le ton n'était peut-être pas tout à fait d'accord avec les paroles. La voix d'Armand tremblait légèrement, mais Aurette, qui, en posant sa question, avait cédé à un mouvement de coquetterie, lui sut un gré infini de sa réserve. » Qu'importait désormais d'être seule avec lui. Une sœur n'a rien à craindre de son frère. Elle pensait qu'avec ce seul mot, il avait réduit à néant les velléités de médisance qui eussent pu se produire. Tous deux, du reste, avaient conscience que leur terrain était brûlant. Alors ils changèrent de conversation. Ils discutèrent longuement sur les divers moyens de rentrer en Europe une fois qu'ils auraient atteint la Chine. Lavarède projetait de gagner Shanghai et de s'engager comme matelot à bord d'un des vapeurs à destination de la Grande-Bretagne. La chose était facile, car les autorités chinoises, faisant tous leurs efforts pour retenir les marins à terre, surtout depuis que la réflexion de la marine est à l'ordre du jour dans l'Empire du Milieu, les équipages des steamers venus d'Europe sont rarement au complet au moment du retour. Aurette approuvait ce plan qui semblait facile à réaliser. C'était même le seul qui fût pratique, comme le fit remarquer Armand. Impossible en effet de gagner l'Europe par la voie de la terre. Il aurait fallu parcourir plus de 7 000 kilomètres à travers des régions peu connues, au milieu de populations hostiles ou de déserts glacés. Ce sujet de conversation épuisé, les jeunes gens n'échangèrent plus que de rares paroles. Miss Merliton sentait le sommeil la gagner. Ses paupières alourdies se fermaient malgré elle. Lavarède s'en aperçut. « Dormez, lui dit-il doucement. Dormez, dormez, petite sœur. » Elle lui sourit et, confiante, s'endormit sous la garde de son amie. Elle fut réveillée au matin par la voix de son père. Le gentleman, fâché de ne pas la voir, heurtait fortement la porte du compartiment. D'un regard rapide, elle s'assura qu'Armand avait regagné sa cachette, et tranquille de ce côté, elle ouvrit. « Quelle heure est-il donc ? » demanda-t-elle à Sir Merliton, que le second accompagnait. « 6 heures, il fait grand jour, je commençais à m'inquiéter. » Vraiment, j'ai dormi si longtemps. Monsieur Crichton eut un cri de stupéfaction. Vous avez dormi, mademoiselle? Oh, mais certainement. Et fixant sur son père son clair regard, Aurette ajouta, j'ai même rêvé que l'esprit du bord me serrait la main en me nommant sa sœur. Merliton approuva de la tête et reconduisit sa fille à sa cabine. Mais elle n'échappa point pour cela à l'admiration de l'équipage, et tout le reste du jour, lorsqu'elle se promena sur le pont, elle put voir les matelots s'incliner sur son passage avec un respect superstitieux. En résumé, son intervention avait merveilleusement réussi. Le factionnaire de la chambre jaune était supprimé, et le Parisien débloqué ne courait plus le risque d'être vaincu par la famine. Aussi était-elle d'une humeur charmante, à ce point qu'une ou deux fois elle daigna répondre à des observations émises par Bouvreuil. Comme elle aurait regretté sa condescendance si elle s'était doutée que l'usurier avait quitté son cadre pendant la nuit et qu'il avait passé l'oreille collée à la cloison du compartiment des Chinois. Et ses regrets se fussent changés en terreur si elle l'avait entendu, après ce patient espionnage, murmurer en se frottant les mains, son geste favori quand il avait manigancé quelque chose de désagréable pour ses semblables. « Flirtez, ma jolie miss, ce n'est pas celle qui flirte qui épouse. » La vie du bord avait repris sa monotonie. Pas un nuage au ciel, pas une lame à la surface de l'océan. Le soleil implacablement dardait ses rayons sur le steamer. Les passagers, engourdis par la chaleur, cherchaient la bande d'ombre des cheminées ou de la passerelle, et là, étendus sur des rocking chairs, ils somnolaient, plongés dans une sorte d'anéantissement. Le Havenway, silencieux au milieu de l'immensité muette, prenait l'apparence de ce vaisseau fantôme qui, suivant la légende maritime, erre sans cesse dans les déserts océaniques conduit par un équipage de trépassés. Si Lavarède s'ennuyait, il n'était pas le seul à bord. Miss Aurette elle-même paraissait d'une gaieté douteuse, ce qui désolait M. Mathieu, car la jeune fille, depuis son exploit, était de sa part l'objet d'un culte particulier. Il la comparait naïvement à toutes les femmes célèbres dont il avait lu la biographie dans un livre du bord. Ophictalis, la Syrienne, Amnoser d'Égypte, qui défendit Thèbes, l'Armoricaine Arreda, Jeanne d'Arc, Soniak Ferzetia, volée vive par les Tatars, et qui a été surnommée la Jeanne Moscovite. Une telle héroïne s'ennuyait. Le brave homme était au désespoir. Par bonheur, dans la journée du 15 août, des requins se montrèrent autour du navire. Il l'accompagnait, prêt à happer ce qui tomberait à la mer. À défaut d'autres distractions, la pêche du squale n'est pas à dédaigner. Officiers et matelots furent enchantés d'en pouvoir offrir le spectacle à leur « young lady ». Après une demi-heure d'effort, on hissa sur le pont un des monstres. C'était un requin-marteau, ainsi nommé à cause de la forme de la tête. Il mesurait près de 7 mètres, et les assistants frissonnèrent en apercevant sa gueule énorme, armée de deux rangées de dents triangulaires, tranchantes comme des lames d'acier. Après la capture d'un de ces terribles hôtes de l'océan, il est d'usage de leur ouvrir l'estomac. On trouve généralement des objets absolument indigestibles qui attestent la prodigieuse voracité de l'espèce. Les marins du Havenway eurent garde de manquer à cette coutume, et leur fidélité à la tradition fut récompensée par la découverte d'un tube de fer blanc hermétiquement clos qui fut remis au capitaine. « Oh ! Fit celui-ci, sans doute un document confié à la mer par des naufragés !» Ces mots excitèrent la curiosité des passagers qui entouraient M. Mathieu, et l'officier fit sauter le bouchon de gutta-percha qui dermait le cylindre et tira du récipient une feuille de papier sur laquelle des signes s'alignaient. Entre parenthèses, plus heureux que les passagers du Heavenway, nous pouvons donner la traduction de ce curieux document. Le capitaine Matthew fit un geste de désappointement. « C'est du chinois » grommela-t-il. « Impossible de déchiffrer ces hiéroglyphes. » « Voyons, » demanda Sir Merliton en prenant le papier. L'anglais examina longuement les caractères et enfin... « Je sais ce que signifient ces lignes, » dit-il, « mais il est au moins des signes que je reconnais. »« Lesquels ?» demandèrent les passagers. « Ce triangle et ces trois points qui sont placés en haut à gauche... » Ils indiquent que nous nous trouvons en présence d'un document émanant des francs-maçons de Chine. Tout le monde se récria « Des francs-maçons chez les Célestes, allons donc !»« Il en existe, » affirma Merliton, « et non seulement ils ont le même emblème que nos francs-maçons d'Europe ou d'Amérique, le triangle, mais encore, les épreuves d'admission usitées chez eux semblent avoir été empruntées à la société chinoise. » de beaucoup plus ancienne. Vraiment, dit M. Matthew, très intéressé, et vous pourriez nous apprendre comment procèdent les jaunes ? Oui, grâce à une publication très étudiée qui a paru en Angleterre. Ma science est bornée, mais enfin voici ce dont je me souviens tant bien que mal. Un mouvement d'attention parcourut l'auditoire, et Sir Merliton commença. La Ligue du Tiantai, ou Société du Ciel, de la Terre et de l'Homme, existait déjà au deuxième siècle de l'ère chrétienne, et toutes les images des francs-maçons européens ont été inventées par elle. Ainsi, lorsqu'un néophyte veut être admis dans la Tiantai, également connue sous le nom de Triade et de Ligue universelle, il doit se rendre au camp des fidèles et se présenter à la porte de l'Orient. C'est là que se tient l'exécuteur des hautes œuvres, dont le glaive nu est toujours prêt à s'abattre sur la tête des profanes, assez audacieux pour s'introduire sans autorisation dans l'enceinte sacrée. Le nouveau venu est vêtu de blanc. En principe, il doit porter une robe neuve, mais s'il est trop pauvre, la société lui épargne cette dépense à la seule condition qu'il ait fait nettoyer son costume ordinaire avec le plus grand soin. Son épaule droite et ses genoux sont nus. Au lieu de tresser ses cheveux en natte, il les laisse flotter librement sur sa nuque afin de montrer qu'il proteste contre la domination tatare. Avant de franchir la porte sacro-sainte, le néophyte paye sa cotisation qui s'élève à 17 francs 50 centimes. Cette indispensable formalité, une fois accomplie, 8 membres de la Ligue le font passer sous une voûte de glaives entrelacés. « Très curieux !» déclarèrent les passagers d'une commune voix. L'Anglais, enchanté de l'effet qu'il produisait, continua. Le catéchumène avance en tremblant dans l'enceinte mystérieuse. Le voici arrivé au pavillon des fleurs rouges où les fidèles purifient leur âme dans les eaux puisées au fleuve Samho, sur les bords duquel se sont réfugiés les 5 ancêtres, persécutés par l'ingratitude de l'empereur et les intrigues de son indigne favori Tanzing. Le néophyte parcourt ensuite le cercle du ciel et de la terre et traverse le pont à deux planches gardées par le jeune homme rouge, armé d'une lance destinée à transpercer les profanes qui ont échappé à l'œil vigilant du gardien de la porte de l'Orient. De l'autre côté de ce redoutable passage se trouve le marché de la paix universelle, le temple du bonheur, la cité des saules et le jardin des péchés. C'est là le siège du grand maître. Au moment où commence la cérémonie, le spectacle devient imposant. la voûte des épées se forme de nouveau sur la tête du néophyte. Il se met à genoux, prête un serment en 36 articles et déclare que tous ses parents sont morts. Dans la langue des initiés, cette formule signifie qu'un membre de la Ligue ne reconnaît plus de lien terrestre. Après avoir fait cette déclaration, le catéchumène se prosterne au pied du trône du grand maître et les 8 épées qui étaient entrelacées au-dessus de sa tête s'appuient sur son épaule nue. On lui présente une coupe d'arak. Il mêle à ce breuvage quelques gouttes de sang qu'il fait couler de son bras, dont l'épiderme vient d'être effleuré d'une légère piqûre. Puis il boit le tout d'un seul trait et la Tiantai compte un fidèle de plus. Bon, interrompit Orette, je constate que le ridicule est de tous les pays. Le sourire des auditeurs prouvait qu'il partageait l'appréciation de la jeune fille, mais Sir Marlington secoua la tête. Vous avez tort, Orette, dit-il, vous jugez légèrement. Ces momeries destinées à frapper l'esprit des simples cachent des projets terribles pour le gouvernement chinois. Tout adhérent à la Tiantai s'engage à n'avoir jamais recours aux autorités chinoises, à ne comparaître même comme témoin devant aucun tribunal. Il ne doit réclamer justice qu'au grand maître de sa loge. Les sentences prononcées par ce dignitaire sont exécutées par les affiliés et la puissance de la société, qui chiffre ses adhérents par millions, est telle que les mandarins n'osent sévir contre elle. Comprenez-vous qu'il ne faut pas rayer une association dont le but avéré est de chasser les conquérants manchous et qui a déjà inspiré à ses ennemis une crainte telle que ses membres sont assurés de l'impunité? Ma foi, s'écria le capitaine, je ne saurais mieux vous remercier de votre conférence qu'en priant mademoiselle de conserver ce document. Il a un intérêt de curiosité, sans compter le facteur qu'il a apporté à bord n'est pas banal. Orette accepta sans se faire prier. Le parchemin chinois ferait bien dans la collection de souvenirs qu'elle avait réunis comme toute anglaise voyageuse, et M. Mathieu avait raison, la façon dont il était parvenu à bord lui donnait un véritable prix. 8 heures plus tard, les passagers entendaient avec joie annoncer la terre. Le Evenway était en vue du port d'Honolulu, le meilleur mouillage des îles Sandwich ou Hawaï. Chapitre 16. Des Sandwichs à la côte chinoise. Guidé par un pilote, le Evenway embouqua la passe dangereuse tracée au milieu des récifs et jeta bientôt l'ancre dans le port d'Honolulu. La ville s'étage en demi-cercle autour de la rade. C'est un spectacle ravissant pour les yeux fatigués de l'invariable horizon de la haute mer. Les maisons apparaissent au milieu de massifs de cocotiers, d'aleristes, de calapèpes, donnant l'impression moins d'une cité que d'une agglomération de villas de plaisance. Le steamer ne devait reprendre le large que le lendemain, Sir Merlitton et sa fille résolurent de passer la journée à terre. Une longue promenade leur ferait du bien. Ils pouvaient d'ailleurs se livrer sans danger au plaisir de la marche dans ce pays fortuné où les reptiles sont inconnus. Les batraciens eux-mêmes n'existent pas au Sandwich. Et tout le monde s'y souvient de ce missionnaire allemand que les indigènes déclarèrent fou parce qu'il avait fait une allusion à l'ancien usage féodal de faire battre l'eau des fossés des castels pour imposer silence à la gente coassante. Donc les Anglais, après avoir parcouru quelques rues de la ville, gagnèrent la rivière Kanaha dans l'embouchure et voisine et remontant son cours, s'engagèrent dans la vallée de Nuunhawu. Ils allaient d'un bon pas, admirant les champs cultivés, limités par des rangées de pandanus, d'arbres à pin, de cassia, de sida. L'air tiède, incessamment rafraîchi par les brises de mer, était chargé de parfums aromatiques. Après Une heure de marche, ils trouvèrent un véritable bois de fougères arborescentes. Ces plantes légères, qui dans nos climats restent toujours de petite dimension, s'élançaient ici à 8 et 10 mètres du sol, formant une voûte de verdure sous laquelle résonnait le bourdonnement grave des scarabées. Du feuillage pendaient de longues chevelures blondes, floraison des fougères, mêlées aux touffes éclatantes du haos, arbuste étrange, dont les fleurs blanches le matin deviennent jaunes au milieu du jour et rouges le soir. Au-delà, le sol s'élevait. Les voyageurs avaient atteint les premières assises de la montagne qui, au Sandwich excepté, comme dans toutes les îles de l'Océanie, occupe le centre des terres émergées. À ce moment, ils rencontrèrent un papolo, un kanak de la classe pauvre. L'indigène, encore que son visage fût tatoué de rouge et de bleu, portait avec aisance un complet de toile et un superbe panama. Il salua les voyageurs de ces mots. « Good morning, signor. Signorita, je vous salue. » Cette salutation en diverses langues fit sourire Aurette. Elle ignorait que les Kanaks hawaïens, sans cesse en contact avec les Américains et les Européens qui détiennent tout le commerce de l'archipel, ont accepté leur langage comme leur monnaie. De même que les louis français, les livres sterling, les dollars et les aigles américains, les lires d'Italie, les roubles russes et les piastres mexicaines tintent ensemble dans leurs poches. De même, les mots de nationalités diverses se confondent dans leurs discours, ce qui, en y ajoutant le dialecte autochtone, donne naissance au plus réjouissant patois. Un voyageur a pu dire avec raison que la langue hawaïenne moderne est un volapuc océanien. En tout cas, elle constitue une sorte de sabir, facile à parler et à comprendre, comme est pour les latins le sabir des rives méditerranéennes. Dans cet idiome panaché, le papolo continua. « Vous allez voir les kakunas ?»«
Les kakunas ?» répéta Sir Merliton.
« Eh oui, les prêtres de la déesse Pélée !»«
Il en existe encore ?» demanda le gentleman. « Je croyais que l'ancienne religion avait complètement disparu, remplacée par le protestantisme, et même depuis le roi Kalakaua par l'athéisme. »
L'indigène hocha la tête.
« Oh, nous ne sacrifions plus à Pélée depuis que notre reine Kaumanu, veuve de Kametamahu, décida son fils, le prince Libolio, à vidioler le tabou le jour même où il revêtait le manteau de plume royale, mais les prêtres consacrés au culte de la déesse n'ont pas déserté ses autels et nous leur faisons, comme autrefois, des offrandes.
« Oui, murmura Sir Merliton, je comprends. Vous êtes chrétien de nom et adorateur de Pélée au fond de vous-même. »
Le papolo eut un geste de dénégation énergique. « Ah non, non, monsieur, ne croyez pas cela. Nous respectons les kakunas parce que cela fait plaisir aux anciens, mais notre amitié est au Christ, car c'est lui qui a mis fin à la tyrannie des chefs et qui nous a donné le suffrage universel. »
Sous une forme bizarre, le Kanak disait la vérité. Les habitants de ce pays lointain, perdu en plein océan, jouissent du suffrage universel que la Belgique n'a pas encore pu obtenir. Tout en devisant ainsi, les voyageurs escaladaient les flancs de la montagne. Aux arbres de la plaine avaient succédé des myrtes gigantesques, aux branches noueuses couvertes de blanches floraisons.
« Nous sommes arrivés, » dit le papolo. Il débouchait avec ses compagnons sur un plateau couvert d'une herbe courte et drue que bornait une muraille perpendiculaire de rochers. Dans le granit, le ciseau patient des générations disparues avait creusé des figures enluminées d'ocre rouge. Une voûte irrégulière s'ouvrait au pied du roc, crevant d'un trou d'ombre la paroi inondée de lumière.
« Le temple de Pélée !» dit simplement l'indigène.
et comme les Anglais s'arrêtaient, regardant curieusement les lignes rouges tracées sur le rocher, « Venez, ajouta-t-il, le tabou n'est plus observé et les Kikunas font bon accueil aux visiteurs. Il y a encore 60 ans, un étranger n'eût pas traversé impunément le plateau où se trouvaient Missoret et son père. Le tabou ou talus, consécration d'un lieu à la divinité, punissait le profanateur d'atroces tortures. Mais aujourd'hui, les coutumes d'hier sont déjà tombées en désuétude. Et de l'antique religion Kanak, il ne reste qu'un temple, demeure déserte d'un dieu détrôné. À la suite du papolo, les Anglais pénétrèrent dans le temple. C'est une succession de cavernes qui s'étendent sous la montagne, réunies par des couloirs étroits, tantôt plans, tantôt en pente raide, où des marches ont été grossièrement taillées. Partout des aiguilles de granit trouvant le plafond, s'élevant au-dessus du sol, des blocs aux formes étranges auxquels les enlumineurs sacrés ont donné l'apparence de monstres fantastiques, et dans les coins obscurs, des silhouettes de guerriers, appuyés sur leurs lances, semblent monter l'éternelle faction dans cette demeure de l'éternité. Autrefois, le soldat vainqueur consacrait à la déesse les armes grâce auxquelles il avait remporté la victoire. Sir Marliton et sa fille suivaient leur guide, silencieux, recueillis, éprouvant, si l'on peut ainsi s'exprimer, une émotion rétrospective. Il leur paraissait que brusquement la roue des années était revenue en arrière et qu'ils allaient assister à un de ces terrifiants sacrifices dont les voûtes du temple avaient été si souvent témoins. À leurs oreilles emplies de bourdonnements, arrivait comme un écho lointain du tambour sacré, et ils se figuraient apercevoir dans la pénombre la théorie mystérieuse des prêtres et des vierges se rendant processionnellement à la salle du suprême sacrifice. Ils s'arrêtèrent soudain. Au détour d'un couloir obscur, ils se trouvaient sur le seuil de cette salle nommée aussi « Caverne des victimes ». Plus vaste, plus peuplée de monstres de pierre que les précédentes, elle apparaissait grandiose. De la voûte, une crevasse bordée de végétation rubescente laissait filtrer une lumière rose qui ajoutait à l'apparence surnaturelle du lieu. Presque aussitôt, une voix leur souhaita la bienvenue. Un kakuna, vêtu de la kalaoui, sorte de chasuble ouverte d'un seul côté, s'était levé du banc de pierre où il rêvait aux splendeurs disparues et venait à eux. Ah ! Il était bien loin des farouches sectateurs de Pélé. Il conduisit les touristes, ainsi que l'eût fait un cicérone de profession, et la visite terminée, il réclama prosaïquement un pourboire que Sir Marliton lui octroya à l'anglaise, c'est-à-dire suffisant, mais pas généreux. Le papolo restait au temple, mais avant de prendre congé des Anglais, il leur dit « Hâtez-vous de gagner la plaine, car le vent Mumukau pourrait bien souffler ce tantôt, et dans la montagne il est dangereux. « Qu'appelez-vous, Mumukau ?» demanda Aoret. L'indigène étendit le bras dans la direction du nord-est. C'est de ce côté, en effet, que soufflent les tempêtes qui ravagent parfois l'archipel. Le nom hawaïen de ce vent en dit long sur les désastres qu'il cause. Mumukau signifie « destruction ». Les Anglais reprirent d'un bon pas le chemin de la ville. Comme ils se rapprochaient de la région cultivée, ils aperçurent devant eux, au bord de la mer, un vaste terrain piqué de petites cases, véritable cottage et s'égayé par des bouquets d'arbres et des allées bien ratissées. Seulement le tout était enclos de hautes palissades et de fossés. Sur une question qu'ils firent, un passant eut un geste d'épouvante et murmura dans son idiome « Mouhu paké !» Ces paroles kanak ne prenaient rien aux Anglais. Mais la mimique se joignit aux explications de l'indigène et il retrouva dans son vocabulaire polyglotte le mot horrible qu'il cherchait. « Les lépreux !» La lèpre, en effet, cette terrible affection qui désola l'Europe au Moyen-Âge, sévit depuis une trentaine d'années sur le petit peuple doré d'Hawaï qu'il appelle le mal de Chine. 200 de la population en sont frappés. Autrefois, on se contentait d'attacher des grelots au cou des malades pour avertir de leur présence et éviter tout contact. Mais depuis que la population blanche a été atteinte elle-même, les précautions sont devenues plus rudes, féroces presque. Les lépreux, qu'une commission annuelle recherche avec soin, sont parqués les uns, les protégés dans la léproserie voisine d'Honolulu, et les autres dans l'île Molokai, la terre de misère d'où l'on ne revient jamais. C'est le seul moyen que la civilisation ait trouvé pour empêcher la contagion. À Molokai, un prêtre fit l'admiration de tous, le père Damien, belge d'origine, qui passa au milieu de ces malheureux 16 d'une héroïque apostolat et mourut de leur mal à l'âge de 33 comme le Christ. Marcel Monnier a vu les plus indifférents, les protestants fanatiques, les plus acharnés dans leur haine contre le papisme, se découvrir émus en prononçant le nom du consolateur des pestiférés. C'est fort bien à eux, mais aucun anglican n'a pris sa succession, libre depuis 3.
Ah, les pauvres gens, dit l'anglaise à qui son père venait de donner rapidement ses explications. Ne trouvez-vous pas bien cruel de les traiter ainsi et de leur enlever tout espoir?
Certaines cruautés s'imposent, mon enfant, dans l'intérêt de tous, répondit le gentleman. Il y a 500, la lèpre avait envahi les pays chrétiens. Si les malades n'avaient pas été parqués dans des endroits spéciaux, d'où ils ne pouvaient sortir qu'armés d'une crécelle dont le son mettait leurs concitoyens en fuite, l'Europe serait aujourd'hui un vaste ossuaire. L'humanité passe son temps à se défendre, un danger écarté, un autre surgit. Ainsi, la plaine actuelle de notre civilisation, c'est l'alcoolisme. Il faudra avant peu prendre des mesures énergiques pour l'enrayer, car il amène l'épilepsie, la folie et les décompositions sanguines de toute espèce. Tout attristés par ces réflexions moroses, les promeneurs atteignirent la ville. Il était temps, le ciel s'était soudainement obscurci, une chaleur lourde pesait sur la terre, d'où s'élevait comme une sorte de buée qui rétrécissait à chaque instant l'horizon. Un bruit lointain, ayant quelque analogie avec une canonnade, se fit entendre, et tout à coup une rafale furieuse passa, décapitant les arbres, secouant les maisons. Le vent Mumukau se levait. Il ne fallait pas songer à regagner le port par la tourmente. Sir Melliton et sa fille furent projetés contre une muraille tout près d'une porte. Tout étourdis du choc, les voyageurs demandèrent asile dans l'habitation. C'était une modeste villa occupée par un pasteur réformé. À des compatriotes, on fit le plus amical accueil. Mais ils arrivaient en plein prêche, on leur fit signe de se taire et d'écouter. Alors devant une douzaine d'auditeurs, le révérend Zacharias, brandissant un papier, tonnait contre un invisible ennemi. « Oui, mes frères, ce soir tout Honolulu impire a assisté à ce spectacle damnable et risqué son salut éternel. Vous, du moins, vous ne verrez pas cet envoyé du démon, ce suppôt de l'enfer, cet être apocalyptique qui n'a qu'une femme, que la forme et dont le nom aux consonances hébraïques et hollandaises ne m'apparaît qu'à travers les épouvantes bibliques. » Le papier imprimé sur lequel frappait incessamment la main du révérend n'était autre qu'un programme du théâtre où la troupe de Sarah Bernard donnait le soir même une des représentations de sa tournée à travers le monde. Miss Sorrett trouva le moyen de se le faire offrir en prenant congé de leur hôte de quelques instants. Cela amusera M. Lavarède, dit-elle à son père. Du fond de son tombeau chinois, il croira revoir un peu son cher Paris. Le lendemain, quand le Evenway quitta le port de Honolulu, filant vers le Japon, dernière escale avant la côte chinoise, il comptait quelques passagers de plus. Les Chinois annoncés au départ de San Francisco par le capitaine Matthew. Et selon les conventions passées, Bouvreuil vivait maintenant avec l'équipage. Or, si la présence des Célestes laissait indifférent Sir Marlton et sa fille, l'éloignement relatif du propriétaire leur causait une certaine satisfaction. Ce dernier, du reste, se montrait peu. On eût dit qu'il s'efforçait d'éviter à ses compagnons de voyage le déplaisir de le voir. S'il montait sur le pont, il se tenait loin de l'endroit où il rêvait, absorbé dans la contemplation de l'horizon fuyant. Au repas, il n'ouvrait la bouche que pour manger. Enfin, sa physionomie elle-même s'était modifiée. Elle avait revêtu une expression paterne, et dans l'aspect de l'usurier, on ne voyait plus trace d'inquiétude. Il n'en avait plus d'ailleurs, ainsi que l'on peut s'en convaincre, en lisant le texte du cablogramme daté d'Honolulu, que Mademoiselle Pénélope Bouvreuil reçut à Sens le 19 août au soir, comme elle finissait de dîner. Cette dépêche lui causa une joie si profonde que l'émoi de son cœur de vierge anguleuse se communiqua à son estomac et qu'elle en pensa mourir d'indigestion. En voici le libellé. Faisant route pour Takeu, Chine, impossible d'aller plus loin, mariage assuré. Au moment précis où Pénélope, fort malade, se mettait au lit, Miss O'Red, de l'autre côté de la terre, quittait le sien et montait sur le pont pour donner un coup d'œil à l'île Graduaire. Au récif Maus et Krusenstein, que côtoyait la route du steamer. La veille au soir, la jeune fille, accompagnée de son père, avait rendu visite à Lavarède. Elle lui avait montré le document chinois apporté à bord, bien malgré lui, par le requin capturé, et le journaliste s'était fait fort d'en déchiffrer certains signes. De même que les hiéroglyphes égyptiens, dit-il, les premiers caractères chinois furent de simples reproductions de formes naturelles. Puis le temps marcha, et la nécessité de rendre par des signes les choses impalpables amena une première complication. Un même caractère représenta un être et sa qualité dominante, le cheval et la vitesse, le vieillard et l'expérience. Et pour éviter la confusion, le signe primitif subit une légère altération. Suivant les cas, on ajouta ou on retrancha, et l'évolution de l'esprit humain continuait. Chaque jour, les idées plus nombreuses enfantaient de nouvelles inventions graphiques, si bien que les types primitifs, torturés, mutilés, contorsionnés, devenaient méconnaissables. Pourtant, avec de la patience, on arrive parfois à retrouver le dessin origine, le dessin racine, à démêler ainsi la filiation du caractère que l'on a sous les yeux et à deviner à peu près le sens de l'énigme proposée par l'écrivain. Ma foi, avait répliqué l'anglaise, je veux m'assurer de la justesse de votre théorie, je vous laisse ce papier à deux conditions. Elles sont acceptées d'avance. D'abord, vous me ferez part du résultat de vos recherches. Avec joie, vous le savez bien, mademoiselle. Puis, avait continué la jeune fille, sans paraître remarquer l'intonation caressante de son interlocuteur, vous prendrez soin de ne point égarer mon document céleste, car à mon retour à Londres, je veux le placer dans une vitrine avec cette mention « pièce franc-maçonnique chinoise trouvée dans l'estomac d'un requin près d'Honolulu ». Et toutes vos amies en verront un pareil souvenir. Vous l'avez dit. Ainsi engagé, la conversation s'était portée tout naturellement sur la Chine, ce mystérieux empire des fils de Han, où 400 millions d'hommes de race jaune empêche par la seule force du nombre la pénétration européenne. Peuple étrange, dit Armand. Tout d'abord, il s'est élevé jusqu'à un haut degré de civilisation, puis il est demeuré stationnaire, permettant à l'Occident barbare de le dépasser. Je ne vous parlerai ni de la boussole, ni de la poudre connue dans l'Empire du Milieu plusieurs siècles avant que la race blanche les découvrit. On peut prétendre que ces inventions sont le résultat du hasard, mais l'hypothèse de la sphéricité de la Terre indique un raisonnement scientifique avancé, n'est-ce pas ? Comme moi, vous savez que le pressentiment de cette vérité ne se fit jour dans le monde chrétien qu'au XVe siècle, et qu'en 1492, lorsque Christophe Colomb quitta l'Espagne avec ses trois caravelles pour en fournir la démonstration expérimentale en allant chercher ce qu'il croyait être l'Inde asiatique, la plupart des savants du temps le raillèrent agréablement. Eh bien, la preuve était faite en Chine dès l'année 203 de notre ère. Le colon asiatique Li Paichun, parti aventureusement sur une jonque grossière, avait abordé dans le golfe de Californie. Séduit par ses récits, ses compatriotes formèrent une seconde expédition en l'an 206. Mais les navires qui la composaient furent dispersés par la tempête et Li Paichun vint échouer sur le récif Krusenstein, voisin des îles Hawaï, où il mourut misérablement. L'histoire avait intéressé Miss Aurett. Aussi, apprenant que le Hewinway passerait au bord du récit, elle avait voulu jeter un regard sur ce rocher incessamment battu par les flots, tombeau mélancolique du voyageur chinois. Et puis c'était la dernière terre qu'elle pourrait apercevoir avant l'escale japonaise de Nagasaki, car la route du steamer laissait loin au sud les archipels Hanson et de Magellan. Les jours suivants, aucun incident ne troubla la monotonie de la traversée. Le ciel uniformément bleu semblait une immense coupe de lazuli renversée sur le plateau des Mohawks de l'océan. La jeune Anglaise se montrait nerveuse, agacée. Vainement, Sir Merliton, toujours impassible, ainsi qu'il convient à un véritable gentleman, faisait de son mieux pour l'amener à la patience. Il perdait son temps. Aurette avait dû prendre en grippe le soleil, car son visage ne sera serené qu'à l'heure où l'astre radieux, ayant achevé sa course, disparaissait à l'horizon dans une apothéose de pourpre. Le dîner terminé, elle ramenait son père à l'arrière et là, penchée sur le bordage, elle regardait les lames allongées s'élever sous les poussées de l'hélice en bouillon phosphorescent. Elle prétendait reconnaître des lettres dans les rapides lueurs serpentant dans l'eau sombre. Lesquelles ? La jeune fille ne s'expliquait pas à ce sujet, mais sûrement elle aimait à les considérer car sa contemplation durait longtemps. Et quand sur le navire endormi, le quart seul veillait à la sûreté de tous, elle disait à son père avec un accent intraduisible « Descendons au compartiment des Chinois, le voulez-vous ?»« Tous les soirs alors, pourquoi ?» Pour savoir ce que nous rencontrerons demain, M. Lavarède marque la route du bâtiment sur la carte que je lui ai donnée. S'il y a un flot, un rocher, il nous enseignera ce qui a pu s'y passer de remarquable. Le capitaine de ce navire ne sait rien. Le père approuvait bénévolement, et tous deux se rendaient à la salle des cercueils. Durant une heure, ils devisaient avec Armand, oublieux de ces morts que la piété natale ramenait dans leur patrie. Enfin, Sir Merliton se levait et avec un flegme tout britannique, « Il se fait tard, » disait-il. « Monsieur Lavarette doit avoir besoin de repos. »« Mais non, » répliquait le journaliste en regardant Miss Aurette. Oh, je vous demande pardon, prolonger notre visite serait indiscret et je ne me le pardonnerai jamais. Alors sur quoi on se serrait la main en se souhaitant bonne nuit, et tandis que les Anglais regagnaient leur cabine, Armand s'étendait philosophiquement dans son cercueil en murmurant ces mots qui ne s'adressaient probablement pas au gentleman. C'est un ange. Jamais sans ces trop courtes apparitions, je n'aurais eu le courage de continuer cette fastidieuse traversée. Quant à Miss Aurette, ses nervosités passées à l'endroit des morts la faisaient sourire, et elle s'avouait ingénument qu'aucune partie du navire ne lui paraissait aussi agréable que la chambre du sommeil. C'est par cet euphémisme qu'elle désignait le compartiment jaune. Cependant, le Evenway marchait toujours. Le 4 septembre, il entra dans le détroit de Diemen, situé entre l'extrême pointe de l'île Kyushu, limite méridionale du Japon, et les îles chinoises de Liéu-Kiéu. Le lendemain soir, il atteindrait Nagasaki et la jeune Anglaise se réjouit à cette nouvelle que lui donna M. Matthew. Sans encombre, la traversée était presque terminée. La nuit venue, une nuit sombre, sans lune, Aurette, selon sa coutume, avait conduit son père sur le pont en attendant l'heure où il serait possible de descendre auprès de leur ami. Seulement, les passagers ne semblaient pas disposés à s'aller coucher. Accoudés sur le bastingage, ils regardaient la surface de l'océan. On eût dit qu'ils attendaient un phénomène trop long à se produire. La jeune Anglaise s'informa, mais avant que la personne interrogée par elle eût répondu, une voix s'était élevée. « Voici, voici » criait-elle, « all right !» Miss Aurette, jetant les yeux sur la mer, avait compris. Le Evenway voguait au milieu d'un océan d'or en fusion. Un instant, séparés par le passage du navire, les eaux se rejoignaient en arrière, formant un tourbillon d'écume lumineuse. Et le remous se propageait, inondant la crête des lames d'un diadème éclatant. La phosphorescence que la présence d'une algue particulière rend fréquente dans ces parages augmentait d'intensité à chaque minute, et sur les vagues noires s'étendait un tapis de lumière. Des matelots montaient sur le pont, chargés d'objets sans valeur, ferrailles, bouteilles vides, et les jetaient par-dessus bord. Au choc, les gouttelettes liquides s'élevaient comme une volée de lucioles. Durant plus de 2 heures, le phénomène se produisit. Passagers et matelots oubliaient le sommeil en présence du merveilleux spectacle qui s'offrait à leurs yeux. Puis la mer s'éteignit et tous, la tête un peu lourde, la vue fatiguée par cette débauche lumineuse, regagnèrent qui leur cabine, qui le poste de l'équipage. Miss Aurette retint son père qui aurait volontiers suivi le mouvement. « Attendons, dit-elle, n'oublions pas que M. Lavarède compte sur notre visite. »« Il est bien tard, » fit remarquer Sir Merlitten. « Je crois qu'il serait mieux de remettre à demain. » Mais elle se récria. « Songez-vous, enfermé comme il est, il ne peut soupçonner ce qui arrive. Que penserait-il de nous ?» L'Anglais haussa imperceptiblement les épaules, mais il ne répondit pas. Il savait bien qu'une femme, pouvant parler 2 fois plus vite et plus longtemps qu'un homme, finit toujours par avoir raison. De fait, Miss Aurette était dans le vrai. Lavarède s'étonnait d'être délaissé par ses compagnons de voyage. Tout d'abord, il avait cru à un léger retard, causé par un incident sans importance, mais le temps passant, il était devenu nerveux, puis inquiet, enfin triste. L'imagination aidant, il se figura qu'un accident, une indisposition, retenait l'un des Anglais dans sa chambre. Au risque d'être rencontré, il allait quitter son asile quand Sir Merlitton et la jeune fille parurent. En quelques mots, on le mit au courant. Il était heureux de constater l'inanité de ses noirs pressentiments, si heureux qu'il approuva le gentleman lorsque ce dernier fit remarquer l'heure tardive et la nécessité d'abréger un peu ce soir-là l'instant de conversation quotidien. Il serra donc la main d'Orette, un peu longuement peut-être, et accompagna les Anglais vers la porte. Tout à coup, il les saisit par le bras et murmura « Écoutez !» Une mince cloison séparait le compartiment des trépassés du couloir, et à travers ce frêle obstacle, les moindres bruits étaient perceptibles. Or, ce qui avait attiré l'attention du Parisien, c'était un frottement qui se produisait à l'extérieur. On eût dit qu'une main glissait sur la cloison. Les Anglais avaient entendu également. Ils s'étaient arrêtés, retenant leur haleine. « Ah ! Fit Sir Burlington, on marche sur la pointe des pieds, dans le couloir. » « Oui, reprit la marraine, et on se dirige de ce côté. »« Qu'est-ce que cela peut être ? » ?»« Je n'en sais rien, mais dans l'incertitude, il est bon de nous dissimuler au cas où un matelot pénétrerait dans cette salle. » Avec des précautions infinies, tous trois se coulèrent entre les cercueils. Alors la porte s'ouvrit lentement, et plusieurs hommes entrèrent, frôla presque les Européens cachés. La porte refermée par le dernier, l'un des mystérieux arrivants alluma une sorte de petite lanterne qui projeta dans le compartiment une lumière atténuée comme eût été celle d'une veilleuse. Miss Sorette retint avec peine un cri de surprise. Cinq individus étaient là, et elle reconnaissait en eux les passagers chinois embarqués à Honolulu. Or, jusqu'à ce jour, ces personnages avaient feint de ne point se connaître. Dans quel but se réunissaient-ils ainsi, au milieu de la nuit, dans ce lieu où nul ne pénétrait? Sir Merlitton se faisait la même question. Quant au journaliste, il regardait curieusement, attendant que le mystère s'expliquât de lui-même.
« Frère Hong Jump Tungeli !»
commença celui qui paraissait être le chef.
« Écoutez-moi !»
Il parlait d'une voix couverte, mais qui arrivait jusqu'aux Européens. « Ah, mais ça !» murmura Armand, tout interloqué, « voilà que je comprends le chinois, maintenant. »«
Deux d'entre vous !» continua l'orateur, ont été élevés par les prêtres blancs. Ils ignorent la langue des fils de mort. Je m'exprimerai donc en patois hawaïen, car tous doivent entendre.
Bon, souligna le Parisien, l'explication me rassure. La main d'Orette s'appuya sur le bras du jeune homme pour l'inviter au silence. Le chinois continuait.
Frère, demain nous atteindrons Nagasaki. Où Jap, Tung et Li descendront en terre pour gagner la côte chinoise à bord de la première jonque marchande qui se présentera.
Les Chinois inclinèrent la terre.
Vous savez pourquoi notre chef suprême nous a rappelé. Notre société, par d'hypocrisie, mérite son nom. Le moindre des adeptes sait pourquoi et contre quoi il combat. Chacun de nous représente un détachement qu'il faut réunir à Pékin à une date que je vais vous dire.
« Ça sera fait !» répondirent les autres d'une seule voix.
« Bien. Maintenant, voici quels sont les ordres de notre grand maître et les faits qui les motivent. Nous, fils de Han, nous voulons rendre la Chine aux Chinois et chasser les envahisseurs manchous qui détiennent le pouvoir. Or, leur chef, qu'il qualifie orgueilleusement de fils du ciel, sent son trône trembler sous la poussée d'un peuple marchant à la liberté. Apeuré, il tend les bras vers les étrangers d'Europe, espérant qu'ils le défendront contre nos entreprises. Il leur a déjà permis d'établir des comptoirs sur les comptes. Maintenant, il rêve de leur ouvrir l'intérieur du pays. »
Un grognement interrompit celui qui parlait. Ses auditeurs avaient eu un même geste de menace et leur face jaune, contractée par la colère, était effrayante.
Un homme, continua le chef, un Allemand. Le docteur Casper est venu vers l'empereur. Il lui a dit, avec un sac de soie que je remplirai de gaz, je m'élèverai et me dirigerai dans l'air. Accorde-moi la permission de tenter l'expérience au milieu de la capitale et de circuler loin, au-dessus des terres soumises à ta domination. L'empereur a consenti. Et le 22 octobre, ce Casper s'enlèvera avec sa machine, qu'il appelle ballon dirigeable.
Le Chinois prit un temps, puis d'une voix insinuante, comme pour faire passer sa conviction dans l'esprit des assistants.
Telle est la version officielle. Mais ici, comme toujours, on trompe le peuple. Dominant le pays, cet Allemand étudiera les routes, les rivières, les canaux, de telle sorte qu'au moment venu, les armées d'Europe connaîtront exactement tous nos moyens de communication et en profiteront pour nous écraser. Mais nous veillons. Aux entreprises de nos ennemis, nous opposerons la volonté de toute une nation. Nous avons le nombre et le dévouement. Prouvons que nous avons aussi l'intelligence. À l'envahissement loyal, les Européens, découragés par les massacres, font succéder l'invasion dissimulée. Alors détruisons leur appareil et nous démontrerons ainsi que nous ne sommes point les gens que l'on berne.
Oui, oui, nous obéirons.
Un frémissement secouait ces fanatiques, jaloux de leur liberté au point de considérer la civilisation comme un danger.
Maintenant, frère,
conclut l'orateur,
regagnez vos cabines. Jab, Tung et Lee vont sortir les premiers. Han et moi, nous laisserons passer quelques instants, puis nous partirons à notre tour.
Les personnages désignés tendirent leurs mains au chef, puis les portant sur leur poitrine et sur leur tête, ils quittèrent le compartiment des rapatriés. Alors celui qui avait transmis à ses hommes les ordres du grand maître de la société secrète, pas d'hypocrisie, se tourna vers l'affilié demeuré auprès de lui et doucement.
« Ah ! » dit-il, « je t'ai fait rester parce que j'ai besoin de toi pour autre chose encore. »
« Ordonné ?» répondit simplement son interlocuteur. D'une voix claire, le chef laissa tomber ces paroles qui firent frissonner la jeune Anglaise dans sa cachette.
« Il faut, après l'escale de Nagasaki, jeter à la mer le cercueil portant le numéro 49. »
Han haussa les épaules. « On l'y jettera ?»«
Tu ne demandes pas pourquoi ?»
Que m'importe, vous parlez, j'obéis.
Je veux que tu saches, pourtant. Il y a 15 jours, le comité de San Francisco m'avisait qu'un traître manchou, condamné par le tribunal secret à ne jamais reposer sur la terre chinoise, allait réussir à éluder la sentence grâce à la diligence de l'administration de la Banque Pacific Line et à quitter l'Amérique.
Eh bien ? Interrogea curieusement le nommé Han.
Je n'ai reçu depuis aucune communication nouvelle. Le cercueil est donc à bord et je dois me conformer aux instructions du comité.
Tout en parlant, il avait pris la lanterne et dirigeait le rayon lumineux sur les cercueils. Chacun, on s'en souvient, était marqué d'une plaque de cuivre gravée portant un numéro d'ordre.
« Le voici !»
reprit le chef en s'arrêtant devant la bière de la Varenne.
« Après-demain dans la nuit, nous le précipiterons dans les eaux du golfe de Pechili. »
« Pourquoi pas tout de suite, fit Han, puisque nous sommes ici ?»«
Parce que cette caisse flotterait, et ce serait peut-être repêché par un autre navire. À Nagasaki, je me munirais de saumon de plomb. » qui entraîneront le corps du Manchou et sa dernière demeure dans les abîmes de la mer, comprends-tu ?
Oui, chef.
Bien, allez, allons dormir, et après-demain le traître subira son sort.
Puis s'être ainsi frappé tous ceux qui lui ressemblent, psalmonia le chinois Han.
Oui, tous.
Et l'Empire du Milieu revenir à ses légitimes possesseurs.
La porte de la chambre jaune retomba avec un claquement léger. Les conspirateurs disparurent et, avec un peu de bonne volonté, les trois spectateurs de cette étrange scène eussent pu se figurer qu'ils venaient de rêver. Mais la réalité de l'aventure ne faisait doute pour personne, et Miss Aurett, très impressionnée, demanda d'une voix tremblante « Vous avez entendu, monsieur Lavarède ?»« Oui, mademoiselle, » répliqua tranquillement le Parisien. « Ces faces de safran prétendent plonger le cercueil 49 dans les profondeurs de l'océan. Le comité de Honolulu retarde sur le comité de Frisco. C'est très drôle. »« Vous trouvez ?» interrompit Sir Merliton. « Ma foi, vous avez un heureux caractère, monsieur Lavarède. Je me plais à le reconnaître, mais enfin, dans la circonstance, la résolution de ces gens me paraît très dangereuse pour vous. » « Dangereuse, vous croyez ? Au moins au point de vue de la succession de votre cousin. »« Comment cela ? Je pense bien que vous ne serez pas dans la caisse 49 lorsque ces conspirateurs l'emporteront. Oh, »« Soyez-en certain, mon cher monsieur Merliton. »« Oui, mais sans cet ustensile, il vous sera impossible de débarquer à Takéou et alors... » Armand sourit. Ah, il est évident que s'il me privait de ma bière, mon voyage serait compromis. C'est ce que je dis. Seulement, ils ne m'en priveront pas. Et comme les Anglais le regardaient avec stupéfaction. Vous allez comprendre pourquoi, acheva le journaliste. C'est simple comme bonjour, grâce à ce canif. Il avait tiré de sa poche un petit canif à manche d'écaille. Il l'ouvrit, et s'approchant du cercueil dans lequel il avait élu domicile, il introduisit la lame dans la rainure de l'une des vis, retenant la plaque de cuivre numérotée. « Que faites-vous ? » questionna Miss Aurett. « Vous le voyez, mademoiselle, je dévisse cette plaque. » Au même instant, la seconde vis cédait, et le Parisien recommença la même opération sur le cercueil voisin. « Ah !» s'écria la jeune fille, « je comprends. »« Je change de numéro, la plaque de mon voisin sur mon cercueil, et je suis 48, la mienne sur le sien, et il est 49. C'est lui que ses compatriotes lesteront de saumon de plomb. » et enverront faire l'excursion sous-marine dont il me menaçait. Quelques secondes plus tard, la substitution était opérée, et Lavarède, enchanté, souhaitait le bonsoir à son adversaire. La pression de main de Miss Aurett fut plus longue que les autres jours. Cet affreux Chinois avait fait si grand peur à la fille du gentleman qu'elle était excusable d'oublier ses doigts effilés dans ceux d'un homme aimable qui se tirait comme en se jouant des passes les plus difficiles. Le 5 septembre, sous petite vapeur, le Evenway doubla le Caplon qui masque et abrite la ville de Nagasaki, chef-lieu du Ken, où gouvernement du même nom est l'un des 7 ports japonais ouverts aux Européens. Comme toutes les jeunes filles, Miss Aurett avait lu l'œuvre de Pierre Loti. Elle eut un sourire en apercevant l'agglomération de maisons minuscules qui composent la ville et qui, entourées de colis verdoyantes, paraissent d'une exiguïté ridicule. Petites habitations, petites gens, appartements formés de cloisons mobiles en papier, poissons rouges, toujours en papier, suspendu à des perches en signe de réjouissance, enfin, tout ce qui fait la vie japonaise, défila devant ses yeux dans le souvenir d'une lecture, et cependant bientôt elle devint sérieuse. C'est qu'à côté de ces détails risibles, elle sentait l'effort d'un peuple intelligent et laborieux, possédé du désir de rattraper les civilisations d'Occident. C'était d'abord à l'entrée du port, le phare d'Ogezaki, dont le feu est visible à 42 kilomètres, ainsi que le lui expliqua M. Mathieu. Puis le long des quais et les docks immenses où vient s'empiler le charbon extrait des mines de Tahasima. Tout indique les tendances d'une nation qui marche vers le progrès, sous les ordres de son empereur, de ce Mikado, autocrate absolu hier, souverain constitutionnel aujourd'hui. Puis, en face, et comme pour servir de repoussoir à ces édifices élevés par le Japon nouveau, les paysages ensanglantés naguère par le fanatisme aveugle, l'île Taguboko ou de la Haute Lance, la pointe d'Aïka et surtout la montagne Papenberg, d'où en 1858, 4000 chrétiens furent précipités à la mer. Une fois débarqués, les Anglais se rendirent compte mieux encore du mouvement d'esprit qui bouleverse le Japon. L'homme du peuple, portant la blouse nationale et la coiffure conique, est coudoyé par le fonctionnaire sanglé dans sa redingote noire et coiffé du chapeau haute forme. Un peu gauche, ces fonctionnaires, dans leur costume européen, manquent d'habitude, sans doute. Leurs épouses, parées à la dernière mode de Paris ou de Londres, ont meilleur air. Là-bas, comme partout, la femme se façonne plus vite aux usages nouveaux. La boutique exiguë, ancien modèle, confine au magasin moderne, dont les hautes glaces excitent l'admiration du passant. L'affreuse politique parlementaire elle-même s'est implantée dans l'empire du Mikado. Les voyageurs en acquirent la preuve en voyant des pans de murs bariolés d'affiches électorales multicolores. Un jour peut-être, les Japonais reprocheront cette importation aux Européens, et pour leur défense, ceux-ci devront rappeler qu'ils ont aussi apporté le baiser. La plus tendre des caresses était ignorée, en effet, des habitants de Kyushu et de Nifon. Elle était remplacée par un cérémonial compliqué. Ici encore, les femmes ont eu la gloire de comprendre les premières. Les Anglais voulurent dîner avant de regagner le bord, hélas. La cuisine du pays est comme le pays lui-même dans une période de transformation. Et les dîneurs ne purent manger les croquettes de rhubarbe frites dans l'huile de ricin, le poulet rôti piqué d'œufs de fourmis rouges, le poisson à la vinaigrette saupoudré de cassonade qui leur était triomphalement servi par un indigène en petite veste, les rincins du tablier blanc de nos garçons de café parisiens. Au mets d'importation étrangère, les cuisiniers japonais ajoutent quelques condiments autochtones, la cassonade dans la vinaigrette, les œufs de fourmi dans le rôti, de telle sorte que, dans cette ville infortunée, habitants et voyageurs sont également incapables de faire un bon repas. Au nom du progrès, on serre sa ceinture. Pays singulier au surplus, qui montre en même temps un soldat de police, un samouraï frappant le prince européen qu'il est chargé de protéger, et la petite japonaise assise dans sa chaïa coquette, bâtie sur pilotis, souriant à tous les étrangers qu'elle salue d'un ruishiva, bonjour gracieux, où il y a bien des chemins de fer déjà, mais où c'est en chaise à porteur que l'on s'y fait conduire. La transition des mœurs se manifeste encore dans la tenue des soldats de la garde impériale, imitée des uniformes du Second Empire. Nous aurions tort au surplus de railler ce petit peuple vaillant, intelligent et passionné, car malgré nos défaites récentes, ce n'est pas l'influence allemande qui y domine, la France y est toujours l'aimée, la préférée. Assez là de leur excursion, Sir Merliton et sa fille regagnèrent le port. Le canot de Evenway était à quai. Ils y prirent place. Presque aussitôt, deux hommes accoururent. Miss Aurette ne put réprimer un tressaillement. En reconnaissant les deux passagers chinois dont elle avait entendu la conversation dans le compartiment des morts, chacun était chargé d'un paquet long, d'un poids assez considérable, à en juger par les efforts des porteurs. Vous les reconnaissez, mon père ? Demanda la jeune fille. Oui, parfaitement, déclara le gentleman. Et comme elle lui désigna les objets que tenaient les deux individus, il ajouta tranquillement « Probablement les saumons de plomb qui entraîneront leurs défunts compatriotes au fond de l'océan. » Orette détourna la tête. Elle songeait que, sans un hasard providentiel, rien n'eût averti la varenne des projets des Chinois. Et alors, elle se figurait ces hommes se glissant une nuit dans la chambre jaune, attachant leur plomb au cercueil où le Parisien dormait, et laissant couler le tout dans l'eau noire qui se refermait sans bruit sur sa proie engloutie. « Mais qu'avez-vous donc, Horret ?» interrogea Sir Mellington. « Vous êtes pâle. C'est parce que je pense à ce qui ne peut plus arriver. » L'Anglais regarda fixement la jeune fille, puis ses yeux se reportèrent sur les Chinois. Ce mouvement ramena les couleurs sur les joues de la jolie voyageuse. Elle se sentait devinée et elle en éprouvait une impression délicate. Certains sentiments ne veulent pas de confident, et le père le plus cher a parfois tort de lire dans l'âme de sa fille. Lorsque l'embarcation eut accosté le navire, les Anglais se promenèrent sur le pont en silence, attendant l'heure où ils pourraient sans crainte de surprise descendre chez la varenne. Il leur fallait voir Armand ce jour-là, puisque les Chinois avaient choisi le lendemain pour immerger le cercueil 49. Une rencontre avec ces initiés lotus blancs eût été désastreuse, et le plus prudent était de s'abstenir. La visite se prolongea bien au-delà des limites ordinaires. Le gentleman dut à plusieurs reprises indiquer que l'heure avançait pour décider Miss Orette à regagner sa cabine. Elle tombait de sommeil pourtant, car à peine étendue sur son lit, elle s'endormit profondément. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, le Hevenway avait quitté Nagasaki et fendait les flots de la mer Bleue. L'heure du déjeuner venait de sonner. En se rendant à la salle à manger, la jeune fille aperçut à l'horizon une terre dont la silhouette déchiquetée se découpait sur le ciel pur. « Quelle est cette montagne ?» demanda-t-elle à M. Matthew, qui se trouvait auprès d'elle. « L'île Mense, Miss, » répliqua l'Américain. « Ce soir, nous l'aurons doublée et nous entrerons dans la mer jaune que la Corée et la côte chinoise resserrent de plus en plus jusqu'au golfe de Pechili. »« Mer bleue, mer jaune, que de couleurs !» « Ces noms sont justifiés, Miss. »« Vous plaisantez, Monsieur Matthew, bleu, pas son corps, mais jaune. » Le capitaine eut un sourire. « Vous la verrez de cette teinte. Du reste, l'explication du phénomène est aisée. Cette mer est peu profonde, et les fleuves ou rivières qui s'y jettent traversent des terrains d'alluvion, dit terre jaune, alors le limon, qu'il charrie est très fin et reste en suspens dans les eaux, de là leur teinte particulière. » La jeune fille écouta cette petite leçon géographique d'une façon distraite. Elle comptait les jours qui la séparaient encore du terme de la traversée, et il lui importait peu d'égrener ses chapelets de 24 heures sur des flots de telle ou telle autre couleur. Mais si elle était morose, Bouvreuil devenait exubérant. L'arrivée au port le transportait d'aise. Joie bien naturelle, pensaient les passagers, car la vie dans le poste de l'équipage n'a rien de récréatif. La journée parut interminable à l'Anglaise. L'idée que la nuit venue, il lui faudrait s'enfermer dans sa cabine, sans donner un amical check-in de M. Lavarenne, lui causait un véritable ennui. Jamais le steamer ne lui avait paru si laid, l'océan si insipide. L'immuable bleu du ciel l'agaçait. Et comme Sir Marleton, né observateur, avait compris un certain froncement de narine, l'orage intérieur qui se déchaînait, il se gardait bien de parler à sa fille. Il s'était lancé dans une grande discussion avec le second du navire sur la question des pêcheries de Terre-Neuve, sur le droit à la boëte, à la capture du homard. Et sur un thème pareil, un Anglais et un Américain discuteraient des semaines entières, pourvu que le brandy ne manquât pas. Grâce à ce stratagème, le gentleman gagna l'heure du dîner sans que Miss Rhett eût trouvé la moindre occasion de déverser sur lui une part de son irritation. La nuit venue, il fallut remonter sur le pont. Marlton appréhendait ce moment, mais, à sa grande surprise, Oren se montra aimable, enjoué. Toute sa mauvaise humeur semblait s'être dissipée avec la lumière du soleil. Elle resta assez tard sur le pont, mollement étendue dans un rocking chair auquel le mouvement du steamer communiquait un doux balancement. Vers 11 heures, elle se déclara lasse, embrassa tendrement son père et se retira dans sa cabine sans avoir prononcé le nom du journaliste. Aussi, l'Anglais s'enferma dans la sienne, ravi d'avoir évité la bourrasque attendue, et se livra aux douceurs du sommeil. Il eût été moins tranquille s'il avait su quelle idée avait rasséréné sa fille. Elle s'était résolument promis de surveiller les deux Chinois dans l'accomplissement de leur funèbre besogne. Tout le monde étant endormi, elle se glissa dans le couloir sombre. Presque aussitôt, des pas légers se firent entendre à l'autre extrémité. Une lueur voilée lui permit d'apercevoir deux vagues silhouettes. C'en était assez. Elle avait reconnu Han et son chef s'éclairant de leur lanterne. La lumière disparut soudain. Orette comprit que les Célestes étaient entrés dans le compartiment des morts et, prise d'une curiosité irrésistible, elle se glissa sans bruit jusqu'à la porte. Anne l'avait laissée entr'ouverte. Par l'entrebâillement, l'Anglaise coula un regard. Les affiliés du Lotus Blanc avaient posé leur lanterne à terre et s'occupaient à faire glisser le cercueil étiqueté 49 des tasseaux qui le supportaient. Un faux mouvement fit heurter le plancher au coffre de chêne. Aurait déjà troublé, ne put réprimer un léger cri aussitôt. Une main nerveuse servit son poignet, et avant qu'elle eût pu se rendre compte de ce qui se passait, elle fut entraînée dans la chambre des morts. Au son de sa voix, Han avait bondi, et il l'amenait à son chef. Celui-ci faisait peser sur la jeune fille un regard aigu, pénétrant, et, comme l'oiseau fasciné par un serpent, elle essayait de détourner la tête, d'échapper à ses yeux immobiles qui l'hypnotisaient. Derrière elle, barrant la porte, Anne attendait les ordres de son compagnon. Enfin, le chef haussa les épaules.
« Tant pis pour elle, va !»
D'un geste rapide, Anne tira son poignard et le leva sur l'Anglaise. Elle était perdue. Quand tout à coup le Chinois tourna sur lui-même comme une toupie et s'alla heurter avec un grognement de douleur à l'angle d'une bière voisine. À côté de la jeune fille, l'avarède venait de se dresser. Prévenu de la visite des Célestes et voulant assister à leur petit travail, il s'était caché, puis tout naturellement, il avait couru au secours de la blonde Miss. Maintenant, il était devant elle, la couvrant de son corps en face des Chinois menaçants. La lutte allait s'engager. Aurait eu l'intuition fugitive que son ami venait de lui sacrifier l'héritage de son cousin. Au bruit, les marins viendraient certainement et le journaliste serait découvert. Et si par hasard on ne venait pas, la situation n'en était pas moins désespérée. Le secret du Parisien ne lui appartenait plus. Les deux Chinois le possédaient, sans compter que dans ce combat inégal, le brave garçon pouvait succomber. Elle regarda Armand. Il souriait. « Voyons, dit-il en employant le sabir hawaïen, pourquoi voulez-vous assassiner cette jeune personne, mon ami ?» Celui que Anne appelait le chef regarda la varenne avec surprise, mais ne répondit pas. « Oh, poursuivez imperturbablement ce dernier, vous croyez de vous compromettre, comme si je ne savais pas que vous êtes ici pour jeter à la mer le cercueil 49. » Et, sur un mouvement de stupéfaction de ses auditeurs, « Chargé de la même mission, j'habite la bière 48. » Il soulevait en même temps le couvercle de sa prison, montrant au Chinois ébahi qu'elle était vide. Du coup, le chef retrouva la parole.
« Qui es-tu donc ?»«
Qui je suis ? Regarde !» Surmontant avec peine l'envie de rire qui le gagnait, Armand tendit à son interlocuteur la boîte de fer blanc trouvée dans l'estomac du requin. Rien que la vue du récipient parut plonger le Chinois dans l'étonnement. Il l'ouvrit, lut le parchemin, puis le rendant au journaliste.
« Tu es un de nos frères ? Et tu réponds de cette Européenne ?»«
Mais depuis San Francisco, ma sœur vient la nuit m'apporter des aliments, sans lesquels je serais aujourd'hui semblable à ceux qui nous entourent. »
« Ah, bien. Elle gardera le silence, n'est-ce pas ?
Comme moi-même. »
« C'est bien, en reprenant notre opération. »
Peu après, les Chinois sortaient, emportant l'ex-48 devenu de la parvolonté du français, le 49, joué à l'exécration du lotus blanc. « Maintenant, mademoiselle, reprit galamment la marraine, de rentrer chez vous et dormez. Excusez-moi de ne pas vous reconduire, mais vous le savez, ma santé m'interdit de quitter la chambre. » Elle lui pressa longuement la main et se retira. Le lendemain, comme elle était restée seule sur le pont, Anne vint s'accouder au bastingage à 2 mètres d'elle, et sans la regarder, sans un geste qui pût trahir leur complicité.
Sœur d'un des nôtres, tu as eu peur cette nuit, pardonne-nous. Tu vas dans l'empire du milieu, accepte ceci, le chef te l'envoie.
Il tenait une fleur de métal figurant la corolle blanche du lotus.
Placée à ton corsage, cette fleur t'évitera les brutalités des polices mandarines et te fera rencontrer des amis partout où tu passeras. »
Ainsi qu'un passager lassé d'admirer l'océan, le Chinois se retourna, s'assura que personne ne l'observait et lança adroitement la fleur au pied de la jeune fille. Cela fait, il s'éloigna tranquillement. Après un instant, Orette ramassa l'emblème de la puissante société secrète et le glissa dans sa poche. Presque malgré elle, elle murmura « Ah, je pourrais peut-être lui être utile. » Cependant, le voyage continuait. Le Evenway se rapprochait de la côte coréenne, laissant apercevoir des villes, des villages. M. Mathieu racontait les curieuses coutumes du pays, où l'hospitalité est plus qu'écossaise. Enfin, le soir du 10, on arriva en vue de Takeo. Il était trop tard pour entrer dans le port, et le Evenway dut capeiller sous petite vapeur en attendant le point du jour. Pour la dernière fois, les Anglais descendirent auprès de la varenne. Ils convinrent de se retrouver le lendemain soir à l'hôtel établi par les soins de la Box Pacific Line Company. Dans la journée, Armand trouverait le moyen de tromper la vigilance des agents de la compagnie et, rempli de confiance, les compétiteurs, devenus amis, se serrèrent vigoureusement les mains en répétant « À demain !»